Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce procès pour une série de viols 25 ans après les faits.
L'homme a été confondu grâce à l'ADN de son frère, une technique encore très peu utilisée. Peu utilisée aussi malgré la reprise de l'épidémie, l'application Stop Covid. Certains, comme ce sénateur, veulent contraindre les Français à la télécharger.
C'est maintenant ou jamais qu'il faut avoir le courage de prendre la décision de rendre Stop Covid obligatoire.
Et puis le tour reprend la route. Les Français sont déjà épuisés. Leur objectif d'ici dimanche, tenter de limiter la casse, nous dira Laurent Jalabert.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
C'est donc le procès d'un homme qui a bien failli ne jamais se retrouver devant la justice. 25 ans après les faits, il comparaît devant les assises de l'Essonne, accusé d'une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur une trentaine de femmes. On va vous expliquer dans un instant comment il a pu être retrouvé, mais on va d'abord donner la parole à l'une des femmes qu'il accuse. Le 21 avril 98, Suzanne, 24 ans, fait son jogging dans la forêt de Sénart. Elle tombe sur un individu à scooter, il est casqué. Il l'assomme avant de l'agresser.
Il avait effectivement un casque et une sorte de cagoule en dessous. En tout cas, je voyais très bien son regard. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est sa voix. Ce qui fait que lorsque nous étions avec Maître Liénard à une confrontation en 2017 avec ce monsieur, lorsqu'il a parlé, ça a été un flash, quoi. Donc, ce que j'attends de ce procès, c'est déjà qu'il reconnaisse ce qui s'est passé. Je pense qu'on attend toutes qu'il dise la vérité et qu'il assume. Et surtout, qu'on fasse en sorte que ce monsieur ne puisse pas croiser nos filles dans les rues.
Témoignage recueilli par vous, Émilie Beaujard. On le disait, hein, Émilie, le violeur présumé a bien failli échapper à la justice. Et c'est grâce donc à une nouvelle technique qu'il a pu être identifié.
Oui, alors que l'enquête a été refermée, faute de preuves, des policiers relancent l'affaire grâce à une technique récente et encore peu utilisée. Ils veulent en fait savoir si un profil génétique proche du suspect, comme un père ou un frère, est connu de la police. Car si les enquêteurs ont l'ADN du violeur présumé, c'est un profil inconnu. En 2014, grâce à cette nouvelle technique dite de la parentèle, les policiers trouvent 29 hommes avec un ADN proche. Parmi eux, un seul qui vivait dans l'Essonne à l'époque des faits. Les enquêteurs viennent en fait de tomber sur le frère du suspect. Très vite, il remonte au plus jeune des frères, 20 ans à l'époque des viols. L'âge correspond, son ADN aussi. L'homme est arrêté dans le nord de la France où il a déménagé et refait sa vie. Il est très vite mis en examen pour 35 viols et agressions sexuelles. À chaque fois le même mode opératoire. Il arrive en mobylette, garde son casque, frappe et agresse des femmes seules. Aujourd'hui, l'homme âgé de 45 ans ne nie pas les faits, mais assure ne pas s'en souvenir. Son procès va durer 5 semaines.
Émilie Beaujard, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, un adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir étranglé à mort son propre père samedi lors d'une violente altercation.
RTL 8h03, en pleine crise de l'épidémie de coronavirus, quid de l'application Stop Covid.
3 mois après son lancement officiel, cet outil permettant de savoir si on a été en contact avec des malades peine à trouver son public, comme on dit. On en est où alors, Vincent Serrano ?
Eh bien, c'est toujours aussi compliqué. Seulement 185 000 téléchargements depuis le milieu de l'été. On en est donc à 2 485 000. Ce qui veut dire que Stop Covid touche à peu près 3% des Français. Et depuis son lancement, seulement 180 personnes ont été notifiées comme cas à risque sur l'application. Un chiffre que la Direction Générale de la Santé essaye de tempérer. La semaine dernière, un bug a empêché plusieurs personnes de se déclarer positifs. Mais le ministère de la Santé le reconnaît. Ces chiffres sont bien loin de nos espérances. Pour Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, c'est le moment ou jamais de passer la vitesse supérieure.
C'est maintenant ou jamais qu'il faut avoir le courage de prendre la décision de rendre Stop Covid obligatoire. Et je pense d'ailleurs que par cette application Stop Covid, on pourrait s'éviter des reconfinements ou des solutions qui ont une atteinte à la liberté qui peut être encore plus grande que le fait d'avoir une application sur soi.
Alors le ministère de la Santé n'envisage pas de rendre le téléchargement obligatoire, mais le message qu'il martèle s'intensifie depuis plusieurs jours. Il faut télécharger l'application. Il faut dire que si l'on prend en compte son développement et son fonctionnement, Stop Covid coûte tous les mois 290 000 euros.
Merci beaucoup pour ces précisions, Vincent Serrano. Et en Allemagne, à titre de comparaison, l'application Stop Covid a été téléchargée plus de 18 millions de fois. Des nouvelles mesures de restriction, elles s'étendent sur tout le territoire. Dans le Nord, la fête des voisins, par exemple, reprogrammée vendredi soir, est annulée, comme les journées du patrimoine dans plusieurs grandes métropoles, toujours du département. Et puis dans la Loire, à Saint-Étienne et à Firminy notamment, le port du masque devient obligatoire dans toute la ville. Quand le confinement a du bon, la fréquentation fréquentation des sites de presse en ligne a explosé en un an. 10 millions de visites supplémentaires par jour. Et c'est la presse quotidienne régionale qui enregistre la plus forte hausse, plus 24,5%.
Dans un instant, casse-tête au ministère de la Justice. Docteur Dupont face à Maître Moretti.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. On reparle de l'affaire dite des écoutes ayant visé Nicolas Sarkozy.
Affaire pour laquelle l'ancien président sera d'ailleurs jugé à la fin de l'année. Mais c'est de l'affaire dans l'affaire dont on va parler ce matin. Souvenez-vous, au début de l'été, on apprend que la juge qui était en charge du dossier avait aussi examiné les fadettes, c'est-à-dire les factures téléphoniques détaillées, de plusieurs grands avocats, comme à l'époque un certain Éric Dupond-Moretti. Rouge de colère à la découverte de ces révélations, c'était sur LCI le 25 juin dernier.
Je découvre avec stupéfaction des méthodes que je qualifie de barbouzardes. Je pèse mes mots et je vais déposer une plainte. Surveiller pendant 15 jours mes facturations détaillées pour savoir qui j'appelle. Ça viole à la fois l'intimité de ma vie privée, ça viole mon secret professionnel, ça viole le secret de mes correspondances. C'est des méthodes barbouzardes.
Sauf qu'aujourd'hui, bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Sauf qu'aujourd'hui, le même Éric Dupond-Moretti est ministre de la Justice et qu'il reçoit tout à l'heure sur son bureau le rapport de l'inspection générale qui avait été diligenté dans la foulée de ces révélations. Il devra forcément changer de ton.
En effet, le garde des Sceaux avait même déposé plainte avant sa nomination pour violation de la vie privée. La raison, ses propres fadettes, c'est-à-dire les listes des numéros de téléphone contactés par son cabinet d'avocat, avaient aussi été décortiquées par le parquet national financier. Le ténor n'avait alors pas eu de mots assez durs pour les magistrats, parlant de faute lourde et d'arrogance en lieu et place d'indépendance. À peine arrivé au pouvoir, Éric Dupond-Moretti a pourtant retiré sa plainte, mais le rapport qui va lui être remis tout à l'heure pourrait comporter des préconisations sur l'organisation de ce même parquet national financier qu'il serait du coup chargé de mettre en œuvre avec le risque d'être taxé de juge et partie. Deuxième possibilité, le rapport valide sans réserve les moyens d'enquête utilisés par le PNF et le ministre de la Justice devra alors vanter les mérites d'un parquet sur lequel il a tiré jusqu'ici à boulet rouge.
Ah, ça va être tempête sous un crâne tout à l'heure. Merci Thomas Proutot.
Dernière ligne droite sur le Tour de France.
Après une journée de repos, les coureurs attaquent la dernière semaine entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans en Isère.
RTL, Tour de France 2020. Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Laurent Jalabert avec vous, Christophe Pacaud.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
On repart pour trois grandes journées dans les Alpes. Les Français sont à la peine, Laurent, le premier. Et pour l'instant, 11e du classement, c'est Guillaume Martin.
Et Guillaume Martin a connu une entame de tour parfaite. Et puis ça s'est compliqué au cours de la deuxième semaine. On lui souhaite de mieux terminer. On sent la fatigue qui envahit le camp français. On sent qu'il y a de l'intention, on l'a vu, sur les étapes, notamment avec des offensives menées de loin. Pierre Roland qui est particulièrement offensif, qui court après une victoire d'étape, qui court après peut-être un maillot à points. On a eu quand même, côté français, c'est vrai, la belle victoire de Julien Alaphilippe à Nice. Avec ce maillot jaune, un Benoît Cosnefroy qui a porté ce maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur pendant 14 étapes, mais qu'il aura du mal à conserver parce que ce classement, eh bien, n'en doutons pas, avec les arrivées jugées au sommet, au col de la Loz, où les points seront doublés, lui sera très difficile d'obtenir. Donc, côté français, on attend simplement que ça se termine pas trop mal avec un peloton qui est épuisé, qui aura pris le soin de récupérer. J'espère que Thibaut Pinot aura retrouvé non pas le sourire, mais simplement ses qualités physiques, l'intégrité de ses moyens pour passer à l'attaque.
Surtout que samedi, on sera chez lui pour le contre-la-montre individuel. À 10h, Laurent Jalabert, on parlera de l'étape du jour. Là, ça va remonter très fort encore une fois, la Tour du Pin, vers Villard-de-Lans.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, messieurs.
Nous terminons avec la boulette du jour.
La révélation du site américain Politico. On la doit, cette boulette, à l'équipe de campagne de Donald Trump qui a publié une affiche de soutien à l'armée. Support our troops. Mmh. On y voit des soldats sur fond de coucher de soleil survolés par des avions de guerre. Bah, sauf que ces avions sont russes. Pour les connaisseurs, ce sont des MiG-29.
Des MiG-29,
oui. Voilà, des MiG-29, des engins soviétiques. La photo a été sélectionnée dans une banque d'images un peu trop hâtivement, semble-t-il.
Et c'est